On accueille Isabelle au 39-21. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Monsieur Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Isabelle?
Ça va à peu près. Enfin, une partie qui va moins bien, mais enfin bon.
D'accord, bah, vous allez m'expliquer ça. Vous allez m'expliquer
quelle
ça.
Quelle patience vous avez, voilà.
Bah, oui, mais il faut de la patience.
Et quelle patience
Et je
vous
pense
avez...
que ça améliore tout, physiquement, spirituellement. Oui. Je pense qu'avoir de la patience, c'est... en tout cas, on dépense moins d'énergie, je pense.
Voilà. Mais enfin, j'écoute pas mal d'émissions, pas toutes, mais pas mal.
Et alors, voilà. ils sont impatients sur les autres émissions?
Non, voilà. Bon. Je vous téléphone, je pense que lorsqu'on vous téléphone, c'est peut-être qu'il y a la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase. C'est un petit peu mon cas.
D'accord.
Mais je vais essayer de résumer pour pas trop perdre de temps, pas trop faire perdre de temps. Parce que moi, je n'ai rien à demander, je n'ai plus aucun espoir, mais c'est seulement pour informer. Voilà.
D'accord.
J'ai pas envie de me priver du tout début, parce que le début était si beau. Mmh. J'étais en 1960, j'ai 80 ans. En 1962, j'avais donc 22 ans. Et j'étais avec une copine de chambre d'étudiante, où nous étions quatre étudiantes. Et le 14 juillet 1962, elle me dit « Écoute, nous n'allons pas rester là toutes seules, toutes les deux. Les autres sont partis dans leur famille. On va aller se baigner au lac de Paladru. » Et donc, je lui dis « Et on va faire du stop. » Je lui dis « Écoute, Solange, moi, le stop, c'est pas tellement mon truc. Hein. » Alors, j'avais pas du tout envie. Elle me dit « Mais si, etc. » Alors, nous partons. Un brave monsieur nous prend en DS. À l'époque, il y avait des DS. Nous prend en DS et nous amène à Prévoiron. Il était 1h30 de l'après-midi et je dis à ma copine, mais tu te rends compte, 1h30, il n'y a personne qui se trouve, les gens sont en train de manger, personne sur la route, on ne va pas aller au lac à pied, on ne pourra pas, etc., etc. Et puis une toute petite Simca 1000 bleu clair au loin qui se pointait. Comment pouvais-je savoir que l'être qui était dans cette Simca 1000 bleu clair était l'homme de mon destin ? Avec qui j'allais partager 57 ans de vie, 57 ans d'affection et d'amour. Voilà.
Magnifique.
Alors, j'ai envie de vous dire ça au début, c'est pas du tout le but pour lequel je vous téléphone, bien sûr. Mais c'est d'autant plus ma souffrance actuelle est d'autant plus intense puisque j'ai partagé 57 ans d'amour et d'affection avec les embûches que tous les gens peuvent connaître dans la vie. Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble, tout simplement parce que nous avons réfléchi. Chacun a eu un contexte de vie particulier. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 2 ans et demi, donc il est tombé d'un arbre, il est tombé d'un noyer. Et puis mon compagnon avait un père un peu inexistant, bien qu'il ait eu un grand-père, une tante existante. Mais voilà, alors nous n'avons pas eu d'enfants, mais tout ce que nous avons partagé en 57 ans, c'était merveilleux. J'étais avec un être intelligent, créateur, actif, créateur de machines-outils. Une tête, vraiment une tête. Et moi, j'étais dans un domaine artistique. Bref, nous avions chacun notre...
Créateur de
machines-outils de précision.
D'accord.
Il travaillait avec des boîtes industrielles autour de Grenoble.
Il était ingénieur, en gros.
Oui, voilà, c'est ça. Mais vraiment, je le dis sans prétention, un être tellement intelligent, pas con, pas jaloux, tout ce qu'on peut désirer.
Tout ce dont on peut rêver quand on est une femme.
Adoré.
Vous l'avez
adoré.
Eu. Ah oui.
Mon Dieu, quelle chance que mon destin m'ait permis
quelle
deux
chance,
choses.
Quelle chance
est ma profession, que j'ai adorée aussi, et son métier à lui, et l'être avec qui j'ai vécu, c'est tellement merveilleux. Nous étions très complémentaires.
Ouais. Voilà. Que faisiez-vous, Isabelle, dans l'artistique?
Natacha pourra vous le dire.
D'accord, ok.
Travaillais avec, j'étais dessinatrice de presse.
D'accord.
Mais ça sera plus précis.
D'accord.
Si vous demandez à Natacha.
D'accord, voilà. Très bien.
Voilà. Donc, lui, il était donc...
Je suis patient et pas très curieux, vous avez remarqué.
Oui, voilà, j'avais un métier assez passionnant. Hein.
D'accord.
Beaucoup de contacts humains, beaucoup de contacts avec toutes sortes de... diversité de personnages. Voilà. Mais je pense que Natacha vous le dira.
D'accord, voilà. Très bien.
Alors, je suis d'autant plus ennuyée, parce que, attention, je suis du matin. Alors, il m'est très difficile de développer ce que j'ai à développer, mais je vais être assez rapide, ça ne sera pas très long. Je suis du matin. Et
prenez votre temps,
soir,
hein, vous savez, c'est un régal de vous écouter, je vous le dis.
Je ne sais pas. Voilà. Donc, mon compagnon a eu beaucoup plus d'embûches que moi dans sa vie professionnelle. Lorsque je l'ai connu, donc j'avais 22 ans, il était en train de fabriquer des moules en bois pour créer cette fameuse machine qui était merveilleuse, cette machine. Mais ce qu'elle était belle, cette machine de précision. Mais c'est pas possible de créer un truc comme ça, sans plan, sans rien. C'est extraordinaire, quoi. C'est une tête, ce gars-là. Alors, lorsque je l'ai connu, il était en train de préparer les moules en bois, en pleine création de machine-outil. Il m'a dit, tu sais, j'avais encore pas commencé dans mon petit atelier, j'avais déjà l'URSSAF, tous les trucs sociaux, et j'avais encore pas gagné un rond, ils étaient déjà derrière la porte. Bon. Alors, il a commencé à créer cette machine, et malheureusement, les propriétaires ont désiré reprendre son local. Il a fallu, malheureusement, qu'il quitte ce local. Alors, vous savez, lorsqu'on est en pleine création, la tête était toute préoccupée par cette machine. Il était tellement passionné, tellement créatif, que c'est vraiment dérangeant, quoi. Il a fallu trouver un autre local. Mais entre-temps, la ville, moi je vous téléphone de Grenoble, entre-temps, la ville de Grenoble fait démolir son appartement pour des constructions diverses, hein. Fait démolir son appartement et un tout petit magasin que sa maman avait de layettes d'enfants. Bon, fait démolir dans une rue ancienne où il n'y avait que des commerçants. Le pauvre, déjà, c'était pas facile de perdre son premier atelier. Alors, deuxième embûche, il retrouve un atelier derrière la gare de Grenoble. À nouveau, au bout de quelques années, ils construisent un immense centre. Bref, donc de nouveau, il est expulsé. Ses ennuis vont commencer à partir de là. Et il touche une indemnité. Et malheureusement, dans cette indemnité, il faut dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité parce que sinon, les choses vous reviennent en boomerang dans la figure par les adversaires.
Oui.
Donc, dans cette indemnité, et la vérité c'est celle-ci, son avocat ne lui avait pas dit qu'il avait une partie à déclarer aux impôts.
Oui.
À partir de ce moment-là, donc il n'avait pas déclaré une partie de cette indemnité aux impôts. Bon, à partir de ce moment-là, je vais vraiment abréger, ça a été épouvantable, ça a été des relances, ça a été des sommes terribles.
Ah oui, carrément.
Oui. Des sommes terribles à donner au fisc. Bon, je ne veux même pas m'attarder là-dessus.
Ça, c'est horrible.
C'est horrible. C'était un être, vous savez, qui était tellement merveilleux, qui était tellement intelligent, créateur, tellement utile. Je lui ai dit, tu aurais mieux fait, mon chéri, tu aurais mieux fait d'être footballeur ou de créer des albums de chansons. Tu aurais mieux réussi dans ta vie. Et alors, à partir de là, il devait faire des travaux, parce qu'on avait chacun notre petit logement. Moi, j'avais un atelier de dessin, mais je ne suis pas souvent restée dans mon atelier de dessin. Vous comprendrez pourquoi après. Et donc,
je me permets de vous interrompre. Philippe me dit dans le casque, notre réalisateur, que cerveau et foot, hein, ce n'est pas obligatoirement compatible. Il n'aurait pas obligatoirement été un bon footballeur. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je suis sûre.
Bon.
Non, mais je lui ai dit, il aurait mieux réussi dans la vie que
Oui, mais je ne suis pas certain, vous savez. Vous seriez surprise d'échanger avec des chanteurs de variété ou avec des footballeurs de nos jours.
Oui.
Je pense qu'il a choisi ce dans quoi il pouvait exceller.
Quand un ami était allé dans son atelier... C'était le fils d'un avocat. Et il lui avait dit, mais tes plans, ils sont où? Mais il dit, je disais tout dans la tête.
Oui.
Et il avait démonté toute cette machine. Et vous voyez le genre de personnage, vous voyez? Voilà.
Bon. Un petit génie, quoi.
Oui, franchement, je lui dis, mais t'es une tête. Tu as une tête, mon chéri, c'est pas possible. Bon, il a fait plein de travaux chez moi aussi. Hein. C'est-à-dire, on était très complémentaires. Tout ce qu'il a fait chez moi et moi, tout ce que je faisais pour lui, on ne pouvait pas échanger. Je veux dire, on était très complémentaires. Il m'a beaucoup aidé. Moi, je l'ai aidé dans un autre domaine, bien sûr. Il me disait, alors je disais à mes amis pour les faire rire, je suis l'inverse d'une femme battue. Que des compliments dans ma vie. Tout ce que tu fais est bien fait. Comme tu es soigneuse. Tu as une as en cuisine. Je lui dis, mais comment veux-tu que je ne sois pas heureuse avec un être comme ça? C'est pas possible. Alors, il me dit, après tous ces ennuis avec le fisc, les impôts qu'il tenaillait, les courriers arrivaient dans les boîtes aux lettres, il devait des sommes épouvantables. Moi, je me chargeais d'aller payer des échéanciers. Enfin, j'ai eu des corvées terribles parce que bon, c'était très pénible. Et il me dit, tu sais, je vais être obligée de te quitter parce qu'il va falloir que je me défende. Et on avait commencé, j'avais un petit bout de sous-toit sans électricité, sans eau. Il m'a dit, écoute, on va essayer de faire un petit studio pour un étudiant.
Oui.
Et puis on avait été ensemble acheter, comme tous les gens qui construisent, un lavabo, un WC, un machin, tout ce qu'il faut pour faire un petit studio. Enfin, c'est pas moi qui allais le faire, bien sûr. Et puis il me dit, écoute, il faut que je te quitte. Et c'est à partir de là que les choses deviennent tristes. Je te quitte parce qu'il faut que j'aille, que je me défende chez moi, que je sorte tous mes documents et que je me défende avec un avocat à Lyon. Bon, l'avocat était certainement très bien, mais c'était un gouffre financier. Et mon compagnon a commencé à perdre un petit peu la mémoire parce que ça a duré 3 ans. Il faut que je te quitte parce qu'il faut que j'aille me défendre. Il se défendait chez lui, il avait un immense vieux piano qui ne marchait pas,
oui.
Un piano à queue qui ne marchait pas du tout. Mais il était tellement grand, ce piano, sur lequel il pouvait étaler tous ses documents. Et il faut que je te quitte parce qu'il va falloir que je me défende. Il a voulu dire qu'il faut qu'on arrête ces projets de petits travaux dans 20 mètres carrés pour faire un studio pour un étudiant. Alors, à partir de là, il a commencé à perdre les mémoires. Bon, il avait une infirmière qui venait, j'abrège, hein, une infirmière qui venait le matin, l'après-midi.
Mais quel âge avait-il à ce moment-là?
Alors, il avait 8 ans de plus que moi.
Oui, mais au moment où l'infirmière vient, c'est...
Il avait 4... ben, écoutez, c'était... il devait avoir 85 ans déjà.
D'accord. 86, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se défendre, à 85 ans.
Oui, oui, oui. 85, 86, 87, 88, oui, voilà, à peu près. À partir en 2015, 2016, 2017.
Parce que les impôts sont venus le chercher à ce moment-là?
Oh là là, mais c'était sans arrêt, c'était les relances, c'était... Non, non, mais ça a été affreux. Dessinatrice, moi je connais rien dans les papelards administratifs.
Moi non plus.
Les documents administratifs, c'est une horreur pour moi.
Vous avez vu tout ce qu'on reçoit en plus comme document? On en reçoit tous les jours.
Ce qu'il fallait lire. Je l'ai aidé, je vous dis, surtout que moi je suis pas douée pour ça, en allant me démener pour payer des échéanciers. Alors, attendez, faut pas que je perde le fil.
Bon alors on en était à l'infirmière.
Une infirmière, alors là, il a commencé à perdre un peu la mémoire. C'était une folie de chercher tous ces documents, de rechercher les années précédentes. Moi qui ai écrit des tas de courriers, ça va être le but de ma conversation. Moi qui ai écrit des tas de courriers, les simples, les recommandés, les courriers de 2 avocats aussi. C'est terrible quand on se met à chercher les dates. J'ai pas d'internet. Hein. Voilà. Alors, il a commencé à perdre un peu la mémoire et puis à devenir malade. Et dans l'espace de 3 ans, il est tombé chez lui plusieurs fois. Il est tombé 1, 2, 3 fois. Et la dernière fois, l'infirmière me téléphone. On était à Grenoble, pas très loin l'un de l'autre. Hein. L'infirmière me téléphone, elle me dit, écoutez, cette fois, je peux plus le ramasser pour le mettre à la douche. C'est plus possible. Il va falloir qu'il soit hospitalisé. Voilà, à partir de là, mon histoire. Il a donc été hospitalisé dans un CHU et en décembre 2018. Et après, ce CHU l'a transférée le 30 janvier 2019 dans un centre de gérontologie. Il y avait des EHPAD, oui. Mais lui, il avait encore sa lucidité, sa mémoire. Malheureusement, il était en fauteuil roulant parce qu'il était tombé plusieurs fois et par sécurité, et de toute façon, il était en fauteuil roulant. Inutile de vous dire, j'allais le voir 3 fois par semaine parce qu'il y avait, je ne pouvais pas être libre d'aller le voir tous les jours. Et moi, de mon côté, je me fatiguais aussi et de mon côté, j'ai commencé à perdre la santé.
Oui.
J'ai eu diverses opérations. Bref, je passe. Moi, ça compte pas. J'ai eu diverses opérations. Mais tout ça m'a empêché, si vous voulez, de même d'aller le voir plus souvent. Je pouvais plus. J'ai été opérée aussi d'une hanche. Je suis appareillée. Je pouvais. Même maintenant, je peux pas marcher beaucoup et je suis appuyée sur une poussette médicale.
Oui.
Pas un déambulateur, une poussette à provision médicale. Et j'ai une voisine adorable, des fois, qui m'emmène à l'endroit où il est. Et alors, voilà la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a commencé, début mai, de lui perdre son appareil auditif. Bon, vous allez me dire, c'est un détail. Il est né avec une seule oreille qui entendait. Alors, j'ai écrit, j'ai demandé comment est-ce que l'on pourrait faire, etc. Bon, je n'ai reçu aucune réponse, que mes courriers soient simples, que mes courriers soient recommandés, même avec l'aide de 2 avocats qui ont écrit au cadre, au fameux cadre, au responsable. Attention, je mets de côté les aides-soignantes qui sont très dévouées et la propreté des lieux. Il faut toujours dire la vérité. Et la vérité, j'ai dit à mon compagnon, tu as fait 2 bêtises dans ta vie. Tu n'aurais jamais dû te mettre à ton compte.
Oui.
Et la deuxième, quand tu as eu cette indemnité, tu aurais dû prendre une mutuelle. Il a fait une grosse bêtise. Il faut toujours dire la vérité.
Allô ?
Oui, je viens de boire une gorgée parce que j'ai la gorge.
D'accord.
Voilà. Donc, il n'avait pas de mutuelle quand il est rentré dans ce lieu. Mais ce qu'il a laissé, c'est quelque chose de super important. C'est un bâtiment atelier de 135 mètres carrés, dont la toiture est en bon état, le crépissage est en bon état. Je vous dis ça parce que ça représente le côté financier. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pris de mutuelle, mais il a laissé un bien assez important, qui est un bâtiment.
Oui.
Alors, on a commencé par lui perdre son appareil auditif. Alors voilà, c'est
mais
là
qui
que
lui a perdu ? Qui lui a perdu ?
Alors, c'est pas lui, parce qu'avec ses doigts, je m'en étais occupée de cet appareil. J'avais été chez Audica, le faire nettoyer, faire changer les piles et tout. Ça s'est passé dans les soins infirmiers du matin. Voilà.
Mm-hmm.
Et malgré mes petits mots, après ça a été des lettres au cadre, après ça a été des lettres recommandées, cet être se trouvait dans un isolement terrible.
Mais c'est
parce
incroyable.
Qu'il n'entendait que d'une oreille. Mais attendez, l'isolement terrible, ça fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça fait 2 ans et 2 mois, vous voyez, j'en suis à 2 ans et 2 mois. Bon, ensuite, une docteure...
Vous savez quoi, Isabelle ? On va faire une petite pause avant que vous continuiez.
Oui.
Parce que je ne vais pas vous couper.
Qu'est-ce que je fais ? Je raccroche
non,
pas ?
Non, vous ne raccrochez pas, vous restez là et puis on écoute un petit peu la pause et puis on se retrouve tout de suite après. D'accord ?
D'accord.
– 23h46 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et nous continuons à écouter Isabelle. Isabelle, alors, ensuite.
– Alors, je vais résumer maintenant. Donc, on commence par lui perdre son appareil auditif et malgré tous les courriers envoyés, je n'ai jamais, jamais, jamais reçu aucune réponse, aucune explication, aucune information des cadres, quel qu'il soit. Bon. Ensuite, je reçois un coup de fil. Madame, nous changeons, Monsieur Dupont, nous le mettons dans une autre unité. C'était en juillet 2019. Je ne vous dis pas la date exacte parce que j'ai toutes les dates exactes, bien sûr. Je vous dis seulement le mois. En juillet 2019, nous le mettons dans une autre unité. Je vais avec une nièce qui n'était pas de Grenoble, mais je vais dans cette unité, mon Dieu. Je m'excuse, je ne vais pas parler avec des pincettes.
Non, c'est fait pour ça.
Je vais être crue. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette unité? Parce que, il a perdu un peu la mémoire, mais il avait encore sa grande lucidité avec ses réflexions. Psychogériatrie. Il était entouré de huit personnes vraiment déséquilibrées, huit fous. En psychogériatrie, je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là?
Vous n'aviez aucun moyen de le sortir de là?
Non, aucun.
Okay.
Je suis personnellement, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais vous pensez bien que j'aurais pu, il a fallu nommer une tutelle, parce que moi, physiquement, je m'occupe de moi difficilement, je me fais même plus à manger comme avant, enfin, je veux dire, j'ai d'énormes difficultés. Je peux difficilement marcher, je risquerais pas de le relever ou de m'occuper de ses soins. Ce serait pas possible. Sinon, inutile de vous dire que je l'aurais fait.
Oui.
Psychogériatrie, une horreur. Ensuite, il est agressé, heureusement que j'y allais souvent, il est agressé en novembre 2019 par une malade. Alors, comme il a été agressé un samedi dimanche, je suis allée le voir un lundi, inutile de vous dire que les deux, trois jours après, j'ai pris des photos. Je ne vous parle pas de la blessure, d'une blessure qui partait de l'œil gauche, qui montait jusqu'à la tempe.
Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait ?
La main couverte de pansements, agressée par une malade.
Mais agressée avec quoi ?
Avec ses mains, je pense, ses ongles, je ne sais pas. Il a écouté les photos sans préparante, je les ai montrées à une amie. Il y a une grande traînée qui part de l'œil gauche et qui monte jusqu'à la tempe. Et la main qui n'est pas couverte, mais la main qui a des pansements sur les doigts.
D'accord.
Voilà, mais c'est surtout ce qui est très apparent, c'est la blessure à la tempe. Bon, et naturellement, inutile de vous dire, je mets un mot sous la porte du docteur pour lui demander ce qui s'était passé. Elle était absente, etc. Bref, jamais aucune réponse, jamais aucune explication, jamais aucune information. Je réécris à cette docteur, toujours la même chose, jamais aucune information. Vous voyez le temps qui s'est écoulé. Ensuite, je reçois un autre coup de fil au bout d'un certain temps. Nous transférons Monsieur Dupont dans une autre unité. Alors, là, c'était terrible pour se débarrasser et pour ne pas avoir d'ennui, pour avoir personne qui l'agresse. Alors là, je vais être encore plus crue. Il est transféré en ce moment encore au milieu de cinq morts vivants. Un qui tape continuellement sur sa tablette, un qui hurle, une autre qui prend des crises, qui crie. Et puis, bon, la pudeur n'existe plus. Mais les aides-soignantes, je n'ai rien contre eux. Ils sont dévoués et il y a toujours la propreté des lieux. Et voilà l'être que j'aimais, qui a partagé sa vie avec moi, dans quel endroit il se trouve depuis décembre 2019. Depuis décembre 2019. Et alors, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ça. C'est jamais, jamais, aucune réponse, malgré tous les courriers recommandés, les courriers de deux avocats. Vous vous rendez compte?
Les courriers de deux avocats, on ne vous répond pas.
Jamais, jamais. C'est la goutte d'eau. Si je vous téléphone ce soir, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent avoir des parents dans les EHPAD. Mais attention, je dis bien, je n'ai rien. Je mets à part. C'est pas que je n'ai rien. Je mets à part les aides infirmières, les aides infirmiers. Ce sont des jeunes femmes dévouées qui n'ont pas un travail facile, très franchement. Et je mets à part et la propreté des lieux. Voilà, aucune information. Et en plus, le CHU, nous recevons, heureusement que je reçois des circulaires, parce que j'étais la personne de confiance. Inutile de vous dire, j'ai toutes les preuves de la personne de confiance. On a même des traces chez le notaire en 1975 de tous les deux. J'ai tous les documents me permettant de retirer l'argent. Enfin, je suis la personne de confiance. Alors, donc, le CHU nous envoie une circulaire en nous disant qu'il fallait plus écrire à la fameuse adresse comme on l'écrivait habituellement, avenue Tartempion, centre de gérontologie, etc. Et alors, avec cette grande différence que moi, n'ayant pas Internet, je recevais les courriers 10 jours après ou 8 jours après. Et les lettres que j'écrivais en écrivant, lui qui écrivait des lettres de ministre, mon compagnon écrivait des lettres de ministre, je lui écrivais des lettres avec des lettres grosses, comme un enfant de 4 ans pour qu'il ne puisse pas avoir de difficulté à lire. Il les recevait 10 jours après. Tout simplement parce que, c'est simple à comprendre, il contrôlait dans ce fameux CHU, avant de renvoyer les lettres, il contrôlait tous les courriers.
Mais pourquoi
et
ça?
Un jour,
pourquoi
j'arrive, pourquoi et un jour j'arrive, j'en ai la preuve, un jour j'arrive et il venait de recevoir deux lettres que je lui avais envoyées déjà un certain temps, elles étaient décachetées, voilà.
Mais ils n'ont pas le droit d'ouvrir
elles
les lettres.
Elles étaient décachetées. Voilà. Alors, si je vous ai téléphoné, c'est simplement pour tous ces détails. Alors, naturellement, j'ai l'habitude des papiers. Enfin, je suis assez organisée. J'ai tous les courriers que j'ai reçus, toutes les circulaires, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, pour nous prévenir de l'épidémie, pas ci, pas ça, pas sortir, pas ci, pas ça. J'ai gardé naturellement les enveloppes et les timbres pour prouver ce que je dis, parce que je recevais une lettre datée du 8, je la recevais le 20 et quelques. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Voilà. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Ma plus grande tristesse et naturellement ma santé a trinqué, j'en termine, c'est de ne jamais, jamais avoir reçu aucune réponse des cadres.
Mais Isabelle, il est encore là-bas ?
Oui, oui, il est encore là-bas, je vais le voir. Parce que vous savez, il y a des restrictions. On est obligé maintenant de donner les jours où on y va.
Mais vous n'avez aucun moyen de le rapatrier là-bas, sur Grenoble ?
Non.
Non,
non, non, je n'ai pas les moyens, c'est plus possible. Puis alors, il y a une tutelle qui a été nommée. Et j'ai écrit à cette tutelle combien de fois où en est cet appareil auditif, parce que il fallait faire normalement actionner l'assurance de l'appareil auditif.
Oui.
Parce que comme il n'avait pas de mutuelle, il a été pris en charge par le département, mais il laisse, je vous dis, il laisse un bien qui est assez important, hein, sur le plan économique.
Oui, oui.
Un bâtiment de 100 mètres carrés, un bâtiment entier. Avec toiture et crépissage mur en bon état
à
l'intérieur.
À Lyon.
Non, à Grenoble.
À Grenoble, d'accord.
Non, c'est à Grenoble.
D'accord,
non,
mais
à
vous
Lyon,
m'avez dit, faut que j'aille chez moi à Lyon tout à l'heure me défendre.
Ah non,
donc,
non, ou alors je me suis trompée. Si
non, non, mais j'ai peut-être sans doute mal compris, mais je ne comprenais pas pourquoi il vous a dit il faut que j'aille chez moi
non,
me
non,
défendre.
Non, non, c'est un avocat à Lyon. À
d'accord.
Lyon, qu'il le défendait.
D'accord.
C'est un avocat qui avait pris son affaire du fiscal.
D'accord.
Voilà. Et là, ça a été la ruine financière. Et puis, petit à petit, il a perdu la tête, pour parler vulgairement.
Oui.
Hein,
oui.
Voilà.
Et comment
en
va
gros,
sa tête aujourd'hui ? Sa tête va comment ?
Alors, chaque fois qu'il me voit, je ne vous dis pas, hein, mais c'est terrible, quoi. Il joint les mains, il dit « Mon Dieu, tu es là, tu es là ». Je dis « Mais je serai toujours là. Je serai toujours là. » Enfin, c'est terrible, quoi.
Et en fait, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun moyen de trouver une place sur Grenoble, ce qui vous permettrait de ne pas faire le trajet ?
Non, parce que c'est trop tard. Alors, par contre, il y a deux psychologues. Dans tous ces cadres, je vous donne un tout petit exemple. Deux psychologues qui sont très sympathiques. Mais j'ai parlé avec l'une et elle me dit maintenant, je lui dis, mais vous vous rendez compte, madame, dans quel milieu il vit ? Il est isolé de par son appareil auditif et isolé au milieu de 5 morts-vivants, quoi. C'est la vérité. Je vous dis même pas les détails, c'est pas possible de le dire. C'est pas possible. Bon, c'est pas possible. C'est un mort-vivant. Et elle me dit, écoutez, je pense, qu'est-ce que vous pensez ? Je lui dis, ben maintenant, il a tellement changé d'unité, c'est pas possible. On va pas encore le rechanger. Il a 89 ans maintenant. on va pas encore le rechanger d'unité, c'est plus possible. Ils l'ont placé quand même devant la télé, c'est le plus vivant, hein.
Oui.
C'est celui qui peut. Ils ont eu l'intelligence de le placer en premier devant la télé.
Mais hein. Devant la télé, dans sa chambre ou...
Non, dans une pièce où il y a Lisa Mort-Vivant derrière lui.
Mais parce que dans sa chambre, il n'a pas la télé, il n'a pas eu d'indépendance.
Mais non, la télé, elle est grande comme un plumier au sommet du mur, puis il n'a pas envie. Il est trop mal placé pour regarder en haut. Puis alors, au début, ils avaient installé un téléphone dans sa chambre. Alors, on m'a averti, vous savez, il va avoir téléphone. Mais mes amis ont renoncé, il n'entend rien.
Il n'entend rien,
mes amis ont renoncé à lui téléphoner, et crier, j'entends rien. Mm-hmm. Il n'entend rien. C'est une horreur. Alors, cette psychologue très sympathique m'avait dit, qu'est-ce que vous pensez? Je lui ai dit, maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas encore le rechanger d'unité, le pauvre malheureux. Première unité, une deuxième unité en psychogériatrie. J'ai appris vaguement. Pourquoi en psychogériatrie, cette docteure l'avait placé là? Parce qu'il avait fait une petite fugue dans son fauteuil roulant, dans le bâtiment. Je ne sais pas où, puisqu'on ne m'a jamais informé de rien du tout.
Mmh. Enfin, écoutez Isabelle, on va continuer, on va continuer à quand même parler de tout ça. On va laisser passer l'info et le journal de la rédaction, et puis on se retrouve tout de suite
alors
après.
Là, vous savez, j'ai bientôt terminé.
Oui, oui, mais comme ça, vous aurez le temps de terminer cette histoire et puis de voir si vraiment on n'a aucune piste de solution quand même peut-être. Mais il ne faut jamais dire non,
oui,
on ne sait jamais. Hein.
Donc, alors, je reste avec mon téléphone débranché.
Vous restez en ligne et puis je vous reprends dans à peu près 6 minutes. À tout de suite.
D'accord.
Il est minuit passé de 8 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez juste maintenant, soyez les bienvenus chez vous puisque c'est votre libre antenne, encore pour une cinquantaine de minutes, jusqu'à 1h du matin. Chers amis, vous pouvez composer toujours le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous appeler, nous envoyer vos SMS au 739-21 suivi du mot « nuit ». Écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Isabelle, vous en étiez donc...
Voilà, je vais bientôt terminer.
Allez-y.
Mais je tenais à vous dire deux choses importantes. Je vous donne un seul exemple d'une cadre que j'avais rencontrée dans le Grand Hall. J'ai dit, madame, vous n'avez jamais, jamais, jamais répondu à aucune de mes demandes, aucune explication, aucun courrier concernant cet appareil auditif qu'est-ce que cela va devenir, etc. Quand est-ce que vous allez lui restituer, etc. Elle me dit, mais demandez à la nouvelle responsable de l'unité où il se trouve qu'elle fasse activer l'assurance. J'ai écrit une lettre très honnête à cette personne. 15 jours après, naturellement, je n'ai pas de réponse. 15 jours après, je la vois dans le couloir à côté de son bureau. Je lui dis, madame, vous ne répondez pas souvent à mon courrier. Et de la part d'une dirigeante d'un tel établissement, elle me dit, je n'ai rien à vous répondre. Écoutez, je suis restée suffoquée. En rentrant chez moi, je pleurais, parce que j'ai pleuré beaucoup plus d'une fois. Hein. J'ose pas le dire, mais combien de fois?
Oui,
combien de fois?
La pauvre, ouais.
Je n'ai rien à vous répondre. C'était horrible, mais horrible.
C'est dingue, surtout.
Et l'autre chose, par contre, ce qui se passe, c'est que, d'accord, j'ai une poussette médicale pour marcher. À Grenoble, nous sommes bien servis dans les transports.
Oui.
Bus, tram, j'ai une nièce qui habite à Vienne, la pauvre malheureuse, elle me dit « qu'est-ce que tu es gâtée avec les transports ?» Alors, il faut que je vous dise, en ayant parlé avec une psychologue du bâtiment là-bas, d'ailleurs, elle est très bien cette psychologue. Elles sont deux psychologues, elles sont très bien. On a beaucoup réfléchi. Elle m'a dit « bon, on en a conclu qu'on n'allait pas encore changer ce pauvre être de place, c'est plus possible. » Il a fait ses marques là-bas, il est bien nourri, il est bien soigné quand même. Je paye le coiffeur quand elle est là. Maintenant, avec l'épidémie, tout s'était arrêté. Donc, en un mot, pour parler très vulgairement, on a pris son petit train-train et la psychologue me dit, je crois que ça serait ennuyeux de le déranger encore. Je dis oui, c'est plus possible. Il a 89 ans, c'est plus possible. Et puis alors, la chose importante, c'est que moi, avec ma poussette médicale, je prends le tram, enfin je fais un petit bout de chemin en partant de mon domicile, je prends le tram et après, au bout de plusieurs arrêts, je reprends un bus qui m'amène à côté de l'hôpital. Alors, oui. Je suis habituée à ça et si on le changeait, je ne sais pas où j'atterrirais, je ne sais pas comment je vivrais.
Il n'y a aucune raison que ça change maintenant,
voilà.
Isabelle.
Maintenant, non, c'est plus possible. Alors, j'ai rien à demander. Mais par contre, ma goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez, ça a été jamais
aucune réponse.
Ouais. Ils ont mon téléphone inscrit, comme tous ceux des parents des résidents qui sont dans ces bâtiments, inscrits sur leur internet, inscrits sur tous leurs documents.
C'est pas compliqué,
ils ont
en plus
mon
de vous répondre. C'est pas
ils
compliqué.
Ont mon téléphone, je leur ai écrit plusieurs fois, vous avez mon téléphone, ne m'avertissez pas à la dernière minute de telle organisation, de telle restriction, etc. Jamais. Aucune réponse. Il a fallu, une dernière fois, que je contacte un ami avocat, qui se trouve pas à Grenoble.
Oui.
Et enfin, la tutelle a été obligée de répondre, parce que avec deux avocats précédents, jamais de réponse, ils ont dû sentir là qu'il fallait peut-être répondre. Alors elle a dit oui, on va faire marcher l'assurance de l'appareil auditif en janvier, normalement c'est en janvier. Là, alors je lui ai écrit, je lui ai demandé où en était le problème de l'appareil auditif. Naturellement, aucune réponse. Voilà, je n'ai aucune réponse, aucune explication, aucune information.
C'est dingue.
Voilà ce que je voulais vous dire. Et ma goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ça. C'est ce que j'ai pu souffrir de rester sans information, sans réponse de tous ces fameux cadres que l'on appelle cadres. Je m'excuse, mais vraiment, c'est intolérable. Voilà. Par contre, je répète bien, les aides infirmières et les aides infirmiers et les deux psychologues, rien à dire. Voilà. Mais des cadres, c'est terrible.
C'est terrible, oui. Et donc,
alors, vous pouvez téléphoner pour prendre un rendez-vous, ça, il n'y a pas de problème. Mais jamais une information sur mon compagnon. Et je ne vous dis pas, lorsqu'il me rend compte il y a longtemps, que le Codib, je devrais l'avoir. Hein. Je vous dis franchement, il m'attrape la tête, il m'attrape les cheveux, il m'embrasse. Et c'est terrible. Mais on ne va pas se priver de ça.
Et que disent, justement, qu'est-ce qu'elles disent, les infirmières, vous le rendez?
Mais il n'y a personne. C'est des morts vivants. Ils n'ont pas besoin de personnel à l'endroit où je vais.
Ah, y a personne.
Ils y sont que quand... c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, parce qu'il a été agressé par une malade dans l'autre unité. Et là, il ne risque pas d'être agressé. Là. Je peux vous assurer, ça ne bouge pas. Hein.
Ah, donc du coup, vous nous avez dit ce soir ça à l'antenne d'Europe 1, mais aucune possibilité de faire bouger les choses, à votre avis?
Ah, si. Non, mais là, de toute façon, il y a les infirmiers et les infirmières qui viennent, qui sont là au moment des repas, mais quand j'arrive, parfois, il n'y a personne.
Oui.
Il n'y a personne. Voilà. Alors, ça dépend. Elles vont manger, les pauvres aussi. Elles ont d'autres occupations. Mais autrement, il y a toujours, naturellement, les infirmiers et les infirmières qui sont dans cette unité. Mais il y a des heures où il n'y a personne.
Oui.
Voilà. Non, mais c'est pas ça. Ce que j'ai voulu faire ce soir, par mon coup de fil, c'est simplement ce fait de ne jamais avoir eu aucune explication.
Ouais.
Ni pour l'appareil auditif, ni pour les transferts, ni pour l'agression. Et l'agression, j'ai les photos, c'est grave, j'ai les
mais
photos.
Vous n'avez aucune possibilité de porter plainte pour ça,
non,
en fait.
Non, je non. suis super fatiguée.
Oui.
Je suis tellement fatiguée,
monsieur
Olivier.
Et personne ne s'occupe de vous, de la famille? Il n'y a pas de la famille autour de vous qui peut vous aider
un peu? Non, j'ai plus personne. J'ai 80 ans. Non,
je sais qu'il y a des avocats aussi que vous connaissez à Grenoble. On ne peut pas vous filer un coup de main, là?
Non, j'ai pas.
Non.
J'ai des amis, mais elles ne peuvent pas... J'ai une amie qui a le même âge que moi, j'en ai une autre plus jeune, j'ai une nièce qui est au chômage depuis 2 ans, la pauvre malheureuse. Non, puis maintenant, c'est trop tard. Vous voyez, je vous l'ai dit dès le début, je ne demande rien, je n'espère rien, mais je voulais seulement informer de quoi on peut être capable.
Oui, mais c'est tout au long, ça fait froid dans le dos ce que vous nous dites, parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on est tout seul, là, comme ça, au bout de sa vie, et qu'il n'y a personne pour nous aider, hein, d'un peu vaillant.
Là, je suis toute seule.
La fin,
80
de vie, la fin de vie est peut-être terrible.
Et je suis au cinquième étage sans ascenseur. Je vous raconte pas, mais il y a une très belle montée. Mais de toute façon, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, ça a été de ne jamais avoir aucune information. Sauf à la fin, là... Là, il y a un mois, une tutelle était obligée de répondre à l'avocat que j'avais pris. Et là, ça a été, bon. Elle a été obligée.
En tout cas, si ça n'avance pas, cette histoire d'appareil auditif, si ça ne bouge pas là, d'ici un mois, rappelez-nous pour qu'on essaie de faire bouger les choses, nous, d'ici.
Hein, oui, voilà, oui. Hein, le malheureux, je ne sais pas combien de temps il va vivre,
non, mais
89
vraiment,
ans.
Non, mais en plus, dans le silence, en fait, parce qu'il n'entend rien, le pauvre. Donc,
oui, il n'entend pas. Il faut vraiment se pencher vers son oreille gauche pour lui parler très fort.
Rappelez-nous pour nous tenir au courant, Isabelle, d'accord ?
Voilà, c'est entendu.
Je compte sur vous.
Beaucoup.
Je vous en prie. Je vous en prie.
Et puis, courage à vous. Mais mon but, c'était d'informer, c'est tout.
Oui. Oui, mais en même temps, vous n'avez pas dit où c'était. Donc, le souci, c'est que on peut imaginer que c'est... moi, je pense que ça serait efficace.
C'est juste à côté de Grenoble, quoi. C'est un centre à côté de Grenoble.
D'accord. Donc,
autour de Grenoble, juste qui touche la limite de Grenoble.
D'accord. C'est un EHPAD public, donc. Hein, on est d'accord.
C'est un centre de gérontologie.
D'accord. Bon. Prévenez-nous si ça avance, cette histoire, quand même, d'accord ?
Voilà. Alors, l'appareil auditif, tenez-vous bien, depuis mai 2019.
Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable,
ça. Il a été
perdu
dans les soins infirmiers et ni lui pouvait le mettre, ni l'enlever, puisque ses doigts, malheureusement, avaient pris une petite déformation. Et il ne faut pas croire que c'était lui qui l'avait perdu. On en était loin. Ça se perd dans les draps.
Donc, oui, mais ce n'est pas normal, ça. Ça n'est pas normal du tout. Hein. Donc,
j'ai entendu d'autres choses. Mmh. Il y en a qui ont même perdu un dentier.
Ouais.
Alors, les vêtements, je n'en parle pas. Alors là, c'est un poème. Alors, les vêtements qui ont disparu, les vêtements que je n'ai jamais revus, les vêtements... Ça, c'est secondaire.
Mmh.
Voilà.
Bon, en tout cas, tenez-moi au courant, Isabelle. Je vous souhaite une
bonne
nuit.
Je souligne bien, mis à part les infirmières.
Très bien, très bien.
Voilà, au revoir et merci.
Au revoir, merci Isabelle, au revoir.
Au revoir.